Bien, bonsoir à tous et d'abord merci pour votre fidélité, pour être venu me retrouver pour ce cours. Je crois que certains d'entre vous sont venus la semaine dernière déjà. Il y a eu un petit problème de communication avec l'administration sur le programme, mais enfin, j'espère que vous n'avez pas complètement perdu votre soirée. Lorsque j'ai été invité à rejoindre le Collège de France pour enseigner dans cette chaire de paléanthropologie, le contrat initial était de 3 ans. Et il semble que ça se prolonge. Et donc, au cours des 3 dernières années, en fait, pour ceux qui ont suivi le cours, nous avons parcouru l'évolution. Sinon l'évolution des hominines en général, mais en tout cas l'évolution du genre Homo. On est arrivé l'année dernière, au dernier cours, avec l'Anthropocène, hein, c'est-à-dire l'époque actuelle. Et quand mon cours s'est terminé, quelques-uns m'ont demandé, des amis m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu vas bien pouvoir raconter l'année prochaine ?» Alors, ce que je voudrais faire, justement, cette année, c'est vous parler d'évolution humaine, mais dans une perspective qui est très différente de celle qui a été la nôtre jusqu'à présent et qui est peut-être aussi, pour vous, un angle d'attaque, une perspective qui est nouvelle, et j'espère que vous n'en serez pas trop déconcerté. Et puis aussi, j'inaugure un format qui est un format nouveau, puisqu'on va avoir 6 cours. Ce ne sont pas 6 cours hebdomadaires, vous avez vu dans le programme, ça s'interrompt de temps en temps. En particulier, la semaine prochaine, je serai sur le terrain au Maroc en train de chercher des fossiles. Et donc, on va se retrouver 6 fois pour 1h30. Donc, j'espère que vous me supporterez pendant 1h30. Ça va être plus long que d'habitude. Et puis, il y aura un colloque au mois de juin qui reprendra certaines des thématiques dont on va parler. Donc, pour cette année, je voudrais vous parler d'énergie. Vous pouvez vous demander, dans le fond, c'est quoi le rapport entre l'énergie et l'évolution humaine. Et j'espère que d'ici le mois de décembre, je vous aurai convaincu que, en fait, l'énergie, c'est la chose la plus importante du monde, y compris pour l'évolution humaine et pour l'évolution même des organismes en général. Cette énergie, c'est l'énergie évidemment qui est consommée par notre organisme pour différentes fonctions, mais c'est aussi l'énergie que nous extrayons de l'environnement pour faire d'autres choses, et on aura l'occasion d'en parler. Et ce que nous allons faire dans ces 6 cours, c'est dans le fond, explorer des fonctions différentes et voir comment les hommes gèrent un peu l'énergie pour satisfaire ces fonctions, qui sont des fonctions biologiques et puis aussi, parfois, encore une fois, des fonctions qui sont liées à l'environnement artificiel que les hommes ont créé autour d'eux. Donc aujourd'hui, on va parler plutôt de la reproduction. Et avant de se lancer dans la reproduction, si je peux dire, je vais être obligé de vous présenter quelques généralités. J'espère que ça ne sera pas trop fastidieux, mais disons qu'il y a des bases théoriques et puis des termes qu'il faut que vous connaissiez, sinon on ne va pas progresser de façon très, très, très claire. Et puis surtout, je crois que c'est peut-être possible de baisser un peu la lumière sur l'écran. Oui, voilà. Surtout, ce qui m'intéresse, dans le fond, c'est de vous montrer comment ces différentes espèces d'hominines qui ont existé au cours des 7 derniers millions d'années, puis alors surtout, en fait, le genre Homo, c'est-à-dire, disons, les 2 derniers millions d'années, comment, dans le fond, on a des stratégies différentes qui se sont développées dans ces différents groupes. Donc, ce qu'on va faire, on va parler aujourd'hui de reproduction, surtout. On parlera d'autres fonctions, on parlera de l'alimentation, on parlera de la locomotion, de choses comme ça. D'une façon générale, en voyant ce que ça veut dire sur le plan énergétique et sur le plan adaptatif. Et puis ensuite, on essaiera d'aller voir dans cet arbre ce qui se passe et comment ces problématiques ont évolué. Alors donc, l'énergie qui est nécessaire à la vie sur Terre, eh bien, ça commence avec le Soleil, en fait. Hein, et c'est notre source d'énergie. Et cette source d'énergie, elle parvient sur Terre et elle est captée essentiellement au départ par les végétaux qui sont des producteurs primaires. Et ces végétaux, dans le fond, grâce à des mécanismes chimiques, grâce à la photosynthèse, vont être capables d'emmagasiner cette énergie sous une forme qui est une forme moléculaire. Et donc, ils synthétisent des molécules à base de carbone, notamment, qui sont des molécules complexes et qui, dans le fond, emmagasinent cette énergie. Ces végétaux eux-mêmes sont consommés par des herbivores. Alors, avant de continuer, je voudrais vous préciser que ça, c'est le schéma, je dirais, principal, le schéma essentiel. Il y a d'autres sources d'énergie possibles pour la vie que le Soleil. En particulier, il y a une énergie géothermique et il y a des producteurs primaires qui ne sont pas des végétaux, qui sont des bactéries, par exemple. Et on a des bactéries qui vivent dans des eaux chaudes, en milieu sous-marin ou pas, dans des environnements où il n'y a pas du tout de soleil, mais où il y a quand même une production de molécules organiques par des voies qui sont différentes de celles-là. Mais ça, c'est vraiment le schéma principal. Et puis alors, ces consommateurs, ils vont être eux-mêmes consommés par des prédateurs, pas tous, mais enfin certains, et il y a toute une série de niveaux qu'on appelle des niveaux trophiques, c'est une chaîne, je vais vous montrer ça dans un instant, de proies et de prédateurs, et cette énergie, eh bien, elle va être transférée comme ça sur des niveaux trophiques de plus en plus élevés. Alors, à chacun de ces niveaux, ce qui se passe aussi, c'est qu'évidemment, il y a une partie de l'énergie qui est dissipée autrement que par la consommation par des prédateurs. Il y a des déchets qui sont produits par chaque niveau, puis il y a les animaux qui meurent, qui se décomposent. Et donc, il y a tout un cycle, en particulier, qui met en jeu ce qu'on appelle des décomposeurs, qui vont, dans le fond, récupérer une partie de cette énergie qui va finir dans l'eau et qui va finir dans les plantes. Hein. Donc, il y a un cycle comme ça de cette énergie. Alors voilà ces niveaux trophiques dont je vous parlais tout à l'heure. On a au départ de l'énergie qui est de l'énergie solaire, qui est fixée par donc ces producteurs primaires. Et puis ensuite, on a toute cette série de niveaux trophiques, avec pour chaque niveau trophique une perte d'énergie sous forme de chaleur, parce que, en particulier, tous ces animaux, ces êtres vivants, ils respirent, il y a des processus physiologiques qui font qu'il y a une déperdition d'énergie. Encore une fois, ils meurent, ils se décomposent, cette décomposition elle-même produit de la chaleur, donc il y a toute une partie de l'énergie qui se dissipe comme ça, mais il y a une partie de l'énergie qui est transmise d'un niveau trophique à l'autre. Et j'attire votre attention sur le fait que, bon, alors ça c'est un schéma un petit peu caricatural, mais d'abord, ce nombre de niveaux trophiques qui varie suivant les milieux en fonction de l'écologie. Quand même, ce qui est remarquable, c'est que en termes d'énergie qui est transmise d'un niveau trophique au niveau trophique suivant, eh bien, il y a une variation qui est une variation d'à peu près un ordre de grandeur. C'est-à-dire qu'il y a à peu près un dixième de l'énergie trophique d'un niveau qui passe dans le niveau suivant. Et cela, bon, ça s'explique assez facilement. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je vous l'ai dit, il y a de l'énergie qui se dissipe sous forme de chaleur, il y a des déchets qui sont produits par tous ces animaux qui finissent par se décomposer. Et puis aussi, bon, toutes les souris de la Terre ne sont pas toutes mangées par des serpents. Hein, donc il y en a quand même qui mènent leur vie de souris tranquillement et dont l'énergie ne passe jamais dans le niveau trophique suivant. Et donc, voilà, elles mènent leur vie de souris. Quand elles ont mené leur vie de souris, elles meurent, elles se décomposent. Et donc, cette énergie-là, elle ne passe pas dans le niveau suivant. Vous voyez quand même que ici, sur ce schéma, on a 5 niveaux trophiques. Et vous voyez qu'avec ces 5 niveaux trophiques, on passe d'à peu près 20 000 kilocalories par mètre carré par an produit dans un certain environnement. Au bout de 5 niveaux trophiques, on n'est plus qu'à 2 kilocalories par mètre carré et par an. Et ça explique le fait que, évidemment, plus on s'élève dans ces niveaux trophiques, et plus les animaux, les prédateurs en particulier, qui se trouvent dans ces niveaux trophiques-là, eh bien, vont avoir besoin, en dessous d'eux, dans cette pyramide, d'une quantité, d'une biomasse, et souvent aussi d'un territoire qui est assez important. Et ça m'amène à une autre notion, très importante, cette perspective d'écologie évolutionnaire. Alors c'est un terme qui est beaucoup utilisé dans le jargon professionnel en anglais, qui est le terme de carrying capacity, qu'on peut traduire en français par capacité porteuse. Alors il y a plusieurs termes qui ont été proposés en français, on va garder celui de capacité porteuse. Alors, cette capacité porteuse, c'est quoi? Eh bien, c'est la taille maximum d'une population de n'importe quoi qui peut vivre dans un milieu donné. Et vous voyez tout de suite que cette capacité porteuse, elle va varier énormément en fonction des organismes, mais surtout en fonction des environnements. Je vous ai pris ici deux exemples extrêmes. Le premier, c'est la banquise de l'Arctique. Et puis, le deuxième, ça a l'air d'être une île tropicale. En fait, c'est le Portugal. Mais, bon. Mais simplement pour vous dire qu'à la surface de la Terre, il y a des milieux dans lesquels la biomasse est beaucoup plus abondante que d'autres. Et cette biomasse, c'est quoi? Enfin, ce qu'on appelle la biomasse, eh bien, c'est l'addition de cette biomasse qui se trouve dans tous ces niveaux trophiques, empilés les uns au-dessus des autres, depuis les producteurs primaires jusqu'aux superprédateurs qui se trouvent au sommet de cette chaîne. Non seulement... alors, il y a évidemment une capacité porteuse qui est complètement différente dans ces deux environnements, hein, en particulier pour des hommes. Il y a un autre aspect qui est important aussi à considérer dans cette comparaison entre ces deux environnements, c'est qu'indépendamment de la température, de la végétation, plutôt de l'absence de végétation dans certains cas, il y a aussi le fait que dans les zones arctiques, on a une nuit polaire qui dure plusieurs mois et un jour polaire qui dure plusieurs mois aussi. Et donc, on va avoir une variation de la biomasse qui va être assez spectaculaire entre l'été et l'hiver, et en particulier dans le milieu marin, dans les zones arctiques, polaires, eh bien, il y a un accroissement très important de la quantité de plancton marin, tout bêtement parce qu'il fait jour absolument tout le temps. Et donc, à ce moment-là, il y a une capacité porteuse pour les baleines, par exemple, qui va être relativement élevée, mais qui va diminuer à presque rien pendant l'hiver. Alors, dans les zones tropicales, les choses sont beaucoup plus, si je peux dire, calmes. Il n'y a pas de variation saisonnière aussi brutale. Et puis, surtout, la biomasse, d'une façon générale, est beaucoup plus élevée. Alors, un des effets de cette situation, pour les primates, pour les grands singes, pour les hommes en particulier, eh bien, c'est que la taille des territoires exploités va varier considérablement. vous ai expliqué que quand on était un prédateur, surtout un super prédateur, eh bien, il fallait quand même un territoire conséquent avec beaucoup de biomasse et tout un échelonnement de ces niveaux trophiques. Et on retrouve, en particulier dans la comparaison homme-chimpanzé, on trouve absolument l'expression de cette variation très importante de la taille des territoires exploités, c'est cette fameuse capacité porteuse. En gros, les chimpanzés qui sont des primates, qui sont des primates quand même essentiellement végétariens, même s'ils consomment un petit peu de viande, qui vivent dans des milieux tropicaux, se contentent de territoires qui sont des territoires de quelques kilomètres carrés, un petit nombre de kilomètres carrés. Quand on passe chez les hommes et surtout dans les groupes de chasseurs-cueilleurs, on a des tailles de territoires qui sont très variables, mais qui peuvent être très très grandes. Ne vous laissez pas abuser par l'échelle qui est sur le côté ici, c'est une échelle logarithmique. Ça veut dire que chaque fois qu'on passe un échelon, on change d'un ordre de grandeur, hein, on multiplie par 10 hein, les chiffres. Et donc, en particulier les groupes de chasseurs-cueilleurs qui vivent dans des milieux tempérés froids, comme l'Amérique du Nord, l'Alaska, enfin, qui ont vécu jusqu'à il n'y a pas longtemps dans ces milieux froids, sont des gens qui, pour survivre, ont besoin d'un territoire qui est un territoire immense comparé à celui de nos chimpanzés. On a des territoires, pour certains groupes de chasseurs-cueilleurs, qui sont des territoires de l'ordre de 60 000 km². 60 000 km², ça fait 200 km par 300 km. Donc c'est ce qu'il faut à ces gens pour, dans une année, dans un cycle de déplacement d'une année, c'est ce qu'il leur faut comme territoire pour exploiter l'environnement, en tout cas ce qu'il leur fallait tant qu'ils avaient une vie de chasseur-cueilleur. Alors une fois que nos chasseurs-cueilleurs, nos hommes, ont extrait de l'énergie de l'environnement sous forme de gibier, par exemple, qu'ils ont capturé, eh bien, cette énergie, elle va être consommée, et elle va être consommée essentiellement de deux façons. Alors, évidemment, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être l'activité physique. Hein. Et effectivement, il y a une partie de l'énergie que nous absorbons sous forme d'aliments qui est consommée sous forme d'activité physique. Alors, c'est une proportion qui est extrêmement variable d'un individu à l'autre. Ce n'est pas la peine d'insister. Hein. Des gens dont l'activité physique est assez modeste, pour ne pas dire quasiment nulle, et puis il y a des gens qui ont une activité physique très importante. Donc c'est assez difficile de donner des chiffres, mais disons, en moyenne, sur une certaine quantité de calories extraites de l'environnement, on va dépenser quelque chose comme 30% de cette énergie pour l'activité physique. En fait, la grosse consommation d'énergie, c'est ce qu'on appelle le métabolisme basal. Et le métabolisme basal, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'énergie qui est nécessaire à votre corps pour rester en vie. C'est-à-dire, c'est l'énergie que vous dépensez quand vous êtes au repos, assis, sans activité physique, simplement en respirant, vous n'êtes pas en train de manger, vous ne faites absolument rien, et vous êtes dans des conditions de neutralité thermique, disons, entre 20 et 25 degrés. Et à ce moment-là, il y a à peu près 60% de ce que vous avez mangé à midi qui est consommé par votre organisme, par vos cellules. Alors vous voyez qu'il y a un petit 8%, là, cette tranche verte, qui est de l'énergie qui est consommé en fait pour digérer les aliments, c'est ce qu'on appelle l'effet thermique de l'alimentation. Pourquoi ? Ben simplement parce que ces aliments dont vous avez besoin pour alimenter votre métabolisme basal et vos activités physiques, eh bien ces aliments ils se transforment pas spontanément en énergie dès qu'on les met dans la bouche. Il faut les mastiquer, il faut les digérer. Il y a tout un processus de conversion en énergie, Et même si le bilan final, évidemment, est très, très positif, il faut consommer de l'énergie pour ça, et c'est ce fameux effet thermique de l'alimentation. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe avec ce métabolisme basal à l'intérieur de notre corps. Mais avant, je voudrais insister quand même sur le fait que ce que je viens de vous montrer, je vous ai dit, c'est dans des conditions de neutralité thermique, sans activité particulière, etc. Évidemment, ça ne correspond pas de façon très réaliste à ce qu'est la vie réelle des hommes, et en particulier, je reviens à mes chasseurs-cueilleurs qui sont nos ancêtres. Et donc, cette extraction d'énergie de l'environnement et cette consommation d'énergie pour notre corps, elle va être modulée en particulier par l'environnement artificiel que les hommes créent autour d'eux. En gros, les hommes, ils aiment bien la neutralité thermique. Personne n'aime vraiment avoir froid, surtout froid comme ça, ou très chaud. Et donc, les hommes ont construit des habitats, ont développé toute une technologie de vêtements, etc., pour, dans le fond, se rapprocher le plus possible de la neutralité thermique. Et ça, c'est à prendre en compte à côté de l'écologie. Et puis, on en parlera de façon un peu plus détaillée quand, dans deux ou trois semaines, quand on parlera de l'alimentation. Il y a aussi une intervention humaine, en tout cas pour les hommes les plus évolués, sur les aliments pour réduire cet effet thermique de l'alimentation. Alors, en un mot, comment est-ce qu'on réduit l'effet thermique ? Ben, on réduit au maximum l'énergie qu'on va consommer pour absorber des aliments. Alors d'abord, de façon mécanique, c'est tout bête, quand vous avez un steak dans votre assiette, vous le coupez en morceaux. Vous n'essayez pas d'avaler le steak entier. Et déjà, ça, c'est le fait d'avoir un couteau et une fourchette, c'est une énorme économie d'énergie. Et donc, les hommes ont réduit leur système masticateur en particulier parce qu'ils avaient des outils, des moyens de couper la viande, de la hacher, de la faire mariner, même de la faire pourrir, peut-être, on pense, etc., pour réduire déjà l'énergie mécanique nécessaire à l'absorption. Et puis ensuite, il y a la cuisson, alors qui contribue aussi à ces changements, des propriétés physiques des aliments, mais surtout, qui rend ces aliments plus assimilables et qui facilite l'extraction de calories de ces aliments. Il y a tout un tas d'aliments, en particulier d'aliments végétaux, qui seraient très difficiles à métaboliser si on ne les faisait pas cuire. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, quand vous étiez enfant, en jouant à la dinette, de manger une pomme de terre crue, mais ce n'est pas très recommandé. Il vaut mieux la faire cuire. Donc, une fois cette énergie absorbée par le corps, donc je vous ai dit, elle va être dépensée sous forme d'activité physique, effet thermique de l'alimentation. Et puis, le gros morceau, c'est le métabolisme basal. Et ce métabolisme basal, eh bien, il varie énormément suivant les parties de l'organisme qui sont concernées. Donc, on a des organes qui sont des organes très gourmands en énergie et d'autres organes qui le sont beaucoup moins. Vous voyez, par exemple, les tissus adipeux, là, ici, c'est pas mal. Ça consomme pas grand-chose en énergie. C'est des tissus, justement, qui, eux, stockent de l'énergie et qui n'en consomment pas beaucoup pour leur maintenance, si je peux dire. Mais par contre, il y a des parties de l'organisme qui sont extrêmement gourmandes en énergie, en particulier le cerveau. Alors ici, sur ce diagramme, c'est le chiffre de 17% qui est donné. On donne plus souvent un chiffre proche de 20%. Mais le cerveau, qui représente à peu près 2% de la masse corporelle, consomme 10 fois plus d'énergie que la moyenne des organes du corps. Donc à peu près 20% de l'énergie. Vous voyez qu'il y a d'autres gros consommateurs, les muscles. Et les muscles, même quand les muscles ne fonctionnent pas, même quand ils sont au repos, sont des tissus qui consomment beaucoup d'énergie. Et puis aussi tout ce qui tourne autour de la digestion, le tractus digestif consomme beaucoup d'énergie, le foie aussi consomme beaucoup d'énergie. Et quand nous parlerons de ces problèmes-là en ce qui concerne l'évolution du cerveau, vous verrez que, dans le fond, en grande partie, l'évolution humaine, elle se, en particulier au cours des deux derniers millions d'années, elle s'est traduite par tout un processus d'adaptation qui a consisté à réduire la consommation énergétique de certaines parties de l'organisme, les muscles par exemple, ou le tractus digestif, pour la réallouer au cerveau et se permettre d'avoir un cerveau de plus en plus gros. Le même diagramme pour un chimpanzé ou un gorille montrerait une portion violette pour le tractus digestif beaucoup plus importante et en opposition, une partie destinée au cerveau beaucoup plus réduite. Alors voilà donc notre organisme humain qui est en mesure de fonctionner, qui extrait de l'énergie de l'environnement. Et cette énergie, en fait, au cours de la vie, elle va être allouée à des grandes fonctions. Alors, quand je parle de grandes fonctions, je ne vous parle plus d'organes à l'intérieur du corps, mais, dans le fond, de fonctions qui rendent la vie possible. Et non seulement la vie possible, mais surtout la perpétuation de la vie possible. Et ces trois grandes fonctions, en fait, sont assez simples à comprendre. La première, c'est la croissance, c'est-à-dire que entre le moment où il y a un œuf qui est fécondé et le moment où on a un être adulte capable de se reproduire, eh bien, il y a ce qu'on appelle la croissance et le développement. Et ça, c'est quelque chose qui coûte de l'énergie. Donc, pendant toute cette phase de notre existence, eh bien, il y a une grande partie de l'énergie qu'on extrait de l'environnement et qui part dans notre métabolisme basal, qui va, d'une façon ou d'une autre, servir à la croissance. Et puis ensuite, quand un être devient mature, adulte, eh bien, à un moment donné, il va bien falloir qu'il se reproduise. Et cette reproduction, ça coûte. Hein. Alors, ça n'a pas l'air, mais ça coûte, la reproduction, hein, de différentes façons. J'ai un ami qui disait que ça coûtait de l'argent, même. Et puis, il y a une troisième fonction qui est très importante, c'est la réparation. Alors, on parle en anglais, on parle de maintenance. Je me suis rendu compte qu'en français, ce n'était pas toujours évident à comprendre, donc je préfère parler de réparation. C'est quoi la réparation ? Eh bien, c'est-à-dire que notre corps, une fois qu'il s'est développé, qu'il a grandi, eh bien, il s'abîme. Il s'abîme au niveau cellulaire, l'ADN s'abîme, des tas de choses s'abîment. Et donc, il y a tout un mécanisme d'entretien, de réparation constante du corps. Et ça aussi, ça coûte de l'énergie. Et dans le fond, on peut regarder l'adaptation des organismes d'une façon très très haute, hein, c'est-à-dire sans s'intéresser spécialement à leur anatomie, à leur alimentation, à leur locomotion, des choses comme ça, comme simplement, dans le fond, des stratégies différentes d'allocation d'énergie à ces différentes grandes fonctions. Et c'est ce qu'on appelle la théorie des histoires de vie. Alors là encore, c'est la traduction d'un anglicisme. Hein. En anglais, on parle de « life history ». Alors, quand on parle des histoires de vie, il ne s'agit pas de l'histoire de nos vies à tous. Hein. Il s'agit, dans le fond, de cette modélisation, de cette théorisation des stratégies d'allocation d'énergie à ces différentes fonctions. Donc, voilà comment ça se passe, j'allais dire, un peu plus dans le détail. Je vous ai expliqué qu'il y a une extraction d'énergie de l'environnement qui est produite par des producteurs primaires. Et donc, cette énergie, elle est extraite par l'organisme. Il y a une partie de cette énergie qui va être stockée, en particulier chez nous, sous forme de gras, enfin sous de matière grasse. Alors, bon, on la met de côté, mais elle va être consommée à un moment ou à un autre. Enfin, on espère qu'elle va être consommée. Elle devrait être consommée à un moment ou à un autre. Et donc, c'est quand même quelque chose qui, à un moment donné, va se retrouver dans le circuit. Pendant la première partie de la vie, jusqu'à l'âge adulte, dans le fond, il y a l'essentiel de l'énergie, si je peux dire, va être investi dans la croissance, parce que c'est ce qui est vital, c'est ce qui est important. Il faut devenir adulte pour pouvoir se reproduire et produire les générations suivantes. Et une fois la croissance terminée, donc quand on passe à l'âge adulte, alors là, il va y avoir cette fameuse activité physique dont je parlais tout à l'heure, mais surtout ces deux grandes fonctions de reproduction et de maintenance, de réparation. Alors, je vous ai dit que la reproduction, ça coûtait. D'abord, ça coûte de façon différente pour les mâles et pour les femelles, et ça varie aussi d'une espèce à l'autre. Chez les mammifères, les mâles produisent beaucoup plus de gamètes que les femelles, et puis ils font des tas de trucs, vous savez, les cerfs qui se battent, par exemple. Ça coûte de l'énergie aux cerfs de se battre, hein. Et puis, il faut produire des bois pour se battre. Et les bois, ça coûte de l'énergie aussi, hein. Donc tout ça, ça se paye, hein, d'une façon ou d'une autre. Donc il y a un coût de la reproduction qui n'est pas juste produire des gamètes et les placer au bon endroit, hein. C'est tout un comportement qu'il y a autour de ça. Et puis alors, la maintenance, donc je vous ai expliqué, bon, c'est essentiellement ce métabolisme basal. Il faut se défendre contre des agents pathogènes, donc il y a des réactions immunitaires, il y a la réparation des cellules, il y a la réparation de l'ADN, tout ça est en jeu. Alors quand on regarde le monde animal autour de nous, eh bien on se rend compte qu'il y a des stratégies adaptatives très diverses qui ont été mises en œuvre par différents organismes pour allouer de l'énergie à ces différentes fonctions. Et la valeur adaptative, le succès reproducteur, si vous voulez, on pourrait dire simplement le succès de chaque espèce, en fait, dépend en grande partie de cette stratégie. Alors, dans le monde animal, en particulier autour de nous, il y a des stratégies absolument extrêmes qui ont été mises en œuvre. Là, je vous montre deux photographies qui sont deux exemples très différents. Alors, l'éphémère, tout le monde connaît ça, c'est un insecte qui fait quelques centimètres, qui produit des larves qui vivent dans le milieu aquatique. Ces larves, elles vivent pendant plusieurs mois, voire plusieurs années dans le milieu aquatique, jusqu'au jour où elles vont se métamorphoser en adultes, enfin, ce qu'on appelle un adulte. Et cet adulte, eh bien, il va vivre seulement quelques heures. Il n'a pas de tube digestif, il n'a pas d'appendice masticatoire ou quoi que ce soit. Ça lui sert à rien parce que l'investissement d'énergie dans la maintenance, c'est zéro. Et toute l'énergie de ces adultes va être investie dans la reproduction. Et une fois qu'ils se sont reproduits, c'est terminé, ils meurent, ils ne servent plus à rien, ils se reproduisent une fois et c'est fini. Donc là, on a un exemple d'espèce qui investit énormément dans la reproduction et, en tout cas, dans le stade adulte, pratiquement rien du tout dans la maintenance, dans la réparation. Alors, à l'autre extrême, on a ces éléphants, alors qui sont des animaux, alors d'abord, d'une taille bien plus considérable que les éphémères, donc eux, ils ont investi dans la croissance, hein. Donc, ils sont devenus très gros. Ils vivent très longtemps. Et contrairement à nos éphémères, ils n'ont que très peu de petits. Ils en ont un tous les quelques années, hein, et ils vont en prendre soin. et ces petits vont, dans le fond, grandir très lentement. Et ça, c'est une stratégie complètement différente, où il y a moins d'investissement dans la reproduction, beaucoup plus d'investissement dans la maintenance, dans la réparation, et puis dans la croissance. Je vous ai donné ces deux exemples. Il y en a bien d'autres, c'est-à-dire ces deux combinaisons, mais ce n'est pas les deux seules combinaisons. Il y a d'autres combinaisons qui existent dans le monde vivant. Alors, on va faire un petit sondage. Imaginez que vous ayez à vous réincarner. Qu'est-ce que vous préférez, une éphémère ou un éléphant ? Alors, les éphémères, levez la main. Il y a quelques éphémères quand même. Alors, les éléphants, il y a beaucoup plus d'éléphants. Alors, je vous indique quand même que les éphémères existent depuis le Carbonifère et que ce sont les insectes ailés les plus anciens sur Terre. Donc, les éphémères s'en sont pas mal sortis quand même. Mais vous avez quand même raison, en fait. Et la raison, c'est que, dans le fond, quand je vous dis qu'il y a des stratégies différentes d'allocation de l'énergie à différentes fonctions, ben oui, mais tout le monde n'a pas à sa disposition la même quantité d'énergie. Et donc ça explique le paradoxe suivant, c'est-à-dire que les gens qui ont des voitures de luxe ont aussi des grandes maisons. Et c'est pas parce qu'ils ont choisi d'avoir plutôt des grosses voitures que des grandes maisons, ils veulent les deux, d'accord ? Et ils veulent les deux. Donc, en fait, si vous vouliez vous réincarner plutôt qu'un éléphant, je vous conseille de vous réincarner dans un homme riche. Évidemment, c'est une blague, mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que dans ce jeu d'extraction de l'énergie et de réallocation à différentes fonctions, il y a des espèces qui ont des capacités d'extraction de l'énergie qui sont bien plus grandes que les autres. Et donc, ça leur permet d'avoir les voitures de luxe, les grandes maisons et tout le reste. Et dans le fond, quand vous avez choisi l'éléphant, inconsciemment, vous avez quand même choisi une espèce qui est capable d'extraire pas mal d'énergie de son environnement par rapport aux éphémères. Et les hommes, alors eux, sont des super champions de l'extraction d'énergie. On va avoir l'occasion d'en reparler plusieurs fois. Alors, il y a un aspect qui est important à garder en tête dans toutes ces discussions sur les théories d'histoire de vie, c'est l'aspect temporel. C'est-à-dire que quand je vous dis qu'une espèce investit plus dans la reproduction ou plus dans la croissance ou plus dans la réparation, ce n'est pas seulement quantitatif à un temps donné. Ce n'est pas seulement le nombre de petits, par exemple, qu'on produit. C'est aussi quelque chose qui se mesure dans la durée. Et si j'ai pris deux espèces théoriques, qui ont, en termes de métabolisme basal, d'adaptation, une grande similarité, mais simplement, vous voyez qu'il y en a une qui met beaucoup plus longtemps à devenir sexuellement mature et à se reproduire. Et donc, celle-là, l'espèce A, en fait, si on considère non pas seulement l'énergie à un moment T, mais l'énergie cumulée dans le temps pour l'investissement dans la croissance, eh bien, c'est une espèce qui investit beaucoup plus dans la croissance et moins dans la reproduction que l'espèce B. Alors, les biologistes qui s'intéressent à l'évolution et qui essaient de comprendre comment ces différentes adaptations fonctionnent s'intéressent à un grand nombre de traits adaptatifs et on pourrait en lister énormément. Mais je vous en ai listé sept qui sont vraiment importants et on va discuter de certains d'entre eux. Dans ces modèles adaptatifs à des histoires de vie différentes, il y a d'abord la taille à la naissance qui compte énormément. C'est-à-dire qu'il y a des espèces qui donnent naissance à des petits, très nombreux, de toute petite taille, et puis il y a des espèces qui donnent naissance à très peu de petits, mais qui sont de plus grande taille. Puis il y a aussi même des espèces qui donnent naissance à très peu de petits et de toute petite taille. Vous avez vu le petit panda à la télévision. On avait du mal à le voir, même, au départ. Donc la taille à la naissance, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, il y a le nombre de petits, et puis aussi le sexe ratio, le nombre de mâles par rapport au nombre de femelles. Alors, chez les hommes, normalement, c'est à peu près moitié-moitié, mais il y a des espèces où ce n'est pas du tout moitié-moitié. Ça peut être un sexe plutôt que l'autre, et ça peut être un sexe plutôt que l'autre en fonction des conditions de l'environnement, en particulier la température, par exemple. Les crocodiles pondent des œufs qui vont donner des mâles ou des femelles en fonction de la température moyenne de maturation de ces œufs. Alors, les poissons font des choses encore plus extraordinaires. Ensuite, il y a le mode de croissance, c'est-à-dire la durée de la croissance et puis tout ce qui se passe comme changement pendant cette croissance. Est-ce que c'est une croissance qui est rapide au début et puis plus lente plus tard? Et on va en parler en particulier pour les hommes. Il y a l'âge à laquelle un individu peut commencer à se reproduire et quelle est sa taille à ce moment-là. Alors, ôtez-vous de l'idée qu'il faut forcément avoir la taille maximum adulte pour se reproduire. En fait, ce n'est pas vrai. Il y a des espèces, et même les hommes peuvent se reproduire sans avoir atteint leur taille adulte maximum. Ensuite, il y a l'investissement reproductif en fonction de la taille et de l'âge. Donc ça peut varier. On peut, vouloir se reproduire plutôt quand on est un jeune adulte. Il y a des messieurs que ça ne dérange pas de se reproduire quand ils ne sont plus du tout des jeunes adultes, par exemple. Donc ça change. On va parler de choses plus tristes, mais la mortalité en fonction de l'âge et de la taille, et puis la longévité, c'est quelque chose aussi qui est très important. Donc il faut prendre tout ça en compte pour comprendre, dans le fond, le modèle adaptatif d'une espèce en particulier, et puis des hommes, pour ce qui nous intéresse. Alors, je vous ai montré tout à l'heure mes éphémères et mes éléphants. On distingue, les gens qui s'intéressent à l'écologie évolutionnaire et aux théories de l'histoire de vie, on distinguait deux modèles extrêmes. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont deux modèles extrêmes, mais qui ne sont pas les seuls qui existent dans la nature. Alors, il y a une stratégie qu'on appelle la stratégie R. Alors, ce R vient de reproduction rate, excusez l'anglicisme, c'est-à-dire le taux de reproduction. Donc là, ce sont des espèces dont la stratégie, dans le fond, c'est d'avoir un grand nombre de petits. Et donc, c'est ce fameux taux de reproduction qui est important dans ces espèces. Alors, ce sont des espèces qui ont tendance à grandir assez vite, alors pas forcément pour atteindre des grandes tailles, mais disons qu'elles arrivent assez vite à la maturité sexuelle. Elles se reproduisent donc à un âge qui est très jeune. Elles ont une vie courte en général, donc une fois que la reproduction est faite, souvent elles ne vivent pas très longtemps. Elles ont un grand nombre de petits à la fois. Ça peut être dans certaines espèces, je ne parle pas des mammifères, mais ça peut être des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers de descendants. La reproduction n'est, souvent, pas toujours, mais dans les cas extrêmes, la reproduction est relativement peu fréquente, rare. Et il y a une forte mortalité, en particulier des petits qui sont produits. Et alors, ces petits qui sont produits, ça peut être des œufs, ça peut être des petits, il y en a beaucoup, mais personne s'en occupe, en particulier les parents ne s'en occupent pas. Et donc, en gros, c'est statistiquement, on espère que sur cette grande quantité de petits, il y en a qui vont survivre. Alors ce modèle, cette stratégie R, elle est souvent adoptée par des espèces qui vivent dans des milieux qui sont des milieux instables, des milieux imprévisibles. Alors quand je dis des milieux instables ou imprévisibles, sont des milieux instables ou imprévisibles, des milieux à risque au moment de la reproduction. Hein ? Pensez par exemple à une tortue marine. Bon, la tortue marine, elle ne vit pas dans un milieu qui est spécialement imprévisible. Hein ? L'océan, les récifs coralliens, ou même le milieu pélagique, c'est un milieu qui est assez prévisible. Par contre, au moment de la reproduction, quand cette tortue marine va se rendre sur une plage, pondre ses œufs dans un trou, et puis ensuite il va falloir attendre pour que ses œufs éclosent et que les petites tortues se précipitent vers la mer avant d'être dévorées par toutes sortes d'animaux, ça c'est un milieu à risque. Ça c'est un milieu qui est imprévisible. C'est-à-dire que par pur hasard, il peut y avoir beaucoup de mouettes sur la plage un jour ou beaucoup moins un autre jour. Et donc, les espèces qui sont confrontées pour leur reproduction à ces milieux-là sont souvent des espèces qui ont cette stratégie R. Alors, il y a une autre stratégie qu'on appelle la stratégie K, toujours un anglicisme, ça vient de carrying capacity, hein, ce K. Ces lettres R et K sont des lettres que les écologistes utilisent. Je ne parle pas de l'écologie politique, hein, que les écologistes utilisent dans des formules, hein, pour mesurer, en particulier, les pressions de sélection qui peuvent s'exercer. Alors, la stratégie K, c'est une stratégie qui est complètement différente. C'est une maturation qui est très lente, avec une première reproduction qui est tardive, une longévité des individus qui est assez, assez longue, des petits qui sont peu nombreux, avec une période de reproduction possible qui est assez longue pour chaque individu, une survie élevée des petits et des soins donnés par les parents. Donc ça, c'est les éléphants. Hein, et puis c'est nous. Hein. Donc les hommes sont, si je peux dire, des super cas. Hein. Ils sont à l'extrême de ce type adaptatif. Et au moment de leur reproduction, en général, sont des espèces qui se trouvent dans des milieux qui sont relativement prévisibles et qui sont des milieux qui présentent un risque faible. Alors, les hommes peuvent vivre dans des milieux qui sont des milieux risqués, mais en tout cas, en général, ils s'arrangent quand ils se reproduisent pour garder leur progéniture dans un environnement justement qui est débarrassé au maximum du risque. Alors, ce qui est important, c'est que non seulement ces deux modèles ne sont pas deux modèles uniques, il y en a d'autres, qu'on ne va pas détailler parce que ce sont assez loin des hommes. Surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a un continuum, en fait, entre le modèle stratégie R et le modèle stratégie K. Donc, il y a des espèces qui trouvent des compromis différents. Vous avez ici, sur ce petit schéma à droite, différentes espèces, et vous voyez ces chiffres sous chaque silhouette, c'est le nombre d'œufs fécondés par an pour chaque espèce. Alors vous voyez qu'on part de l'huître avec 500 millions d'œufs fécondés par an. Alors, il n'y a pas beaucoup qui survivent, mais milieu extrêmement imprévisible pour les œufs et à très grand risque. Et puis, à travers des poissons, des amphibiens, des mammifères, eh bien, on s'achemine vers le modèle K extrême, qui est un modèle où là, on va avoir un petit tous les 5 ans, 10 ans, voire plus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on regarde le taux de survie de chaque population, eh bien, on a dans le modèle K énormément d'individus jeunes qui survivent, et puis la mortalité va se faire sentir surtout sur les individus âgés, à l'opposé de ce qui se passe dans le modèle R, où là on a une mortalité très très forte des jeunes, et puis ensuite eh bien, ça va se calmer, et puis la mortalité va baisser chez les adultes d'âge avancé. Donc, il y a des courbes intermédiaires qui représentent d'autres espèces. Alors, les hommes, eh bien, je vous l'ai dit déjà, comme les autres hominoïdes, comme les grands singes africains ou asiatiques, eh bien, toutes ces espèces correspondent à cette stratégie K, et donc on retrouve tous ces traits de vie dont je vous ai brièvement parlé. Alors, on peut les regarder un petit peu plus en détail. On va commencer avec la longévité. Alors, d'une façon générale, les grands singes, les hommes, vivent longtemps comparés à d'autres mammifères. C'est assez intéressant de regarder ce que donne la longévité dans l'ensemble des mammifères. Et, alors ici, c'est une étude qui est assez intéressante parce que alors, ce qu'on voit avec ces points rouges, tout ça, c'est des espèces différentes de mammifères. C'est que, en fait, plus on a affaire à des espèces de grande taille, et plus la longévité est importante. Et donc, au sein des primates, eh bien, on a ce phénomène qui joue, et les hommes sont des primates de très grande taille, en tout cas si vous les comparez à des petits singes sud-américains ou à des prosimiens. Donc on s'insère assez bien dans ce schéma. Dans cette étude, les chercheurs ont aussi introduit des oiseaux. Alors vous voyez que les oiseaux sont les points bleus. Les oiseaux ont une longévité supérieure en fait à celle des mammifères à taille égale. Hein ? Donc on a tendance, alors ces échelles hein, en abscisse en ordonnée sont toujours des échelles logarithmiques hein, pratiquement, parce que sinon on ne pourrait pas représenter à la fois une musaraigne et un éléphant sur le même diagramme. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que donc on a cette longévité assez importante chez les oiseaux. On s'est demandé pourquoi, et la réponse, eh bien la réponse, elle vient du fait que quand on vole, eh bien comme on dit dans le jargon, on est moins exposé au risque de mortalité extrinsèque. C'est-à-dire que, indépendamment du vieillissement, des maladies, de toutes sortes de choses désagréables qui peuvent arriver, on a moins de chances de se faire attraper par un prédateur quand on vole que quand on ne vole pas. Et la meilleure preuve de ça, c'est que, en fait, si on ajoute à ce diagramme des mammifères volants, comme les chauves-souris, eh bien, les mammifères volants se rangent avec les oiseaux, c'est-à-dire qu'ils ont une longévité qui est ce qu'on attend pour un oiseau de cette taille-là. Et par contre, les oiseaux qui sont des oiseaux inaptes au vol se rangent avec les mammifères. Donc, c'est bien le vol plus qu'autre chose qui est en jeu dans cette histoire-là. Donc, je vous disais que les primates au sein des mammifères se caractérisaient par une longévité encore plus importante que la moyenne des mammifères. Et au sein des primates, plus on va avoir affaire à des primates de grande taille, comme le gorille, le chimpanzé, l'orang-outan et l'homme, et plus on va avoir des longévités importantes. Donc cette longévité, mais la voilà comparée ici entre des chimpanzés et puis des hommes qui sont des chasseurs-cueilleurs. Donc ce que vous avez, ces courbes représentent le taux de mortalité en pourcentage de la population. Alors ça démarre très haut au début. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mortalité infantile très forte chez les chimpanzés et chez les hommes. Je ne parle pas des hommes qui vivent dans le 5e arrondissement de Paris, mais des chasseurs-cueilleurs. Ici, ce sont des hachés d'Amérique du Sud. Donc, une mortalité infantile très forte. Puis ensuite, la mortalité descend très, très vite. Et puis, dès qu'on a affaire à des adolescents ou des jeunes adultes, donc il y a une mortalité qui est faible. Alors, chez les chimpanzés, elle ne va pas tarder. Donc, on a ici des mâles et des femelles. Elle ne va pas tarder à remonter, et elle remonte de façon graduelle jusqu'à un âge autour de 40 ans, qui est en gros l'âge maximum qu'on observe dans la nature pour des chimpanzés sauvages. Des chimpanzés qui sont placés dans des conditions de vie proches des hommes peuvent vivre beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de du petit chimpanzé qui jouait Cheetah dans les films de Tarzan, mais... Elle est morte, il est mort, à plus de 70 ans. Alors, chez les hommes, on a une baisse de la mortalité infantile, enfin, une baisse de la mortalité dès qu'on arrive à l'adolescence. On a un plateau jusque vers 40-45 ans, et puis ensuite, la mortalité va remonter, puis s'accélérer énormément vers la fin. Donc, vous voyez que enfin, le message principal de tout ça, c'est quand même que les hommes vivent plus longtemps que les chimpanzés, hein, et en gros, c'est ce qu'on attend. Alors, pendant cette longue vie, les hommes vont être caractérisés par un développement beaucoup plus long que celui des chimpanzés. Et ici, vous avez une comparaison des courbes de croissance entre ce chimpanzé et cette petite fille. Ce que vous voyez, c'est qu'en gros, chez le chimpanzé, la taille adulte, elle est acquise autour de 13 ans, par là, 12-13 ans à peu près. Et c'est l'âge, d'ailleurs, auquel les chimpanzés, normalement, commencent à se reproduire. Pour notre petite fille, alors surtout si c'est un petit garçon, là, c'est beaucoup plus long, c'est vers 18-20 ans que la croissance se termine. Vous avez une courbe qui est la courbe de croissance elle-même, qui est là, et puis cette autre courbe, c'est une courbe qui est une courbe de vélocité, c'est-à-dire la vitesse de la croissance à un moment donné. Vous voyez quelque chose de tout à fait particulier et différent entre les chimpanzés et les hommes, c'est qu'il y a ici, chez les hommes, une période entre, disons, 12 et 16 ans où la croissance va s'accélérer énormément. Et donc ça, c'est l'adolescence, c'est la puberté. Et chez les hommes, c'est un moment où la croissance va s'accélérer de façon très, très importante. Et on va avoir, disons, en quelques années, on va passer d'un format enfant à un format adulte, hein, de façon accélérée. Cette phase d'adolescence, avec cette accélération de la croissance, on pense que c'est un caractère qui est particulier aux hommes et qu'on retrouve de façon beaucoup moins marquée chez d'autres espèces d'hominoïdes, le chimpanzé par exemple. Alors concrètement, pour en revenir aux hommes, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une croissance qui est une croissance séquentielle, hein, c'est-à-dire qu'on revient à ces problèmes de coût. Hein. Il y a un coût à la croissance, je vous ai expliqué ça. Au début, au cours de la vie, une grande partie de l'énergie extraite de l'environnement, elle est investie dans la croissance. Et en particulier, au début de la vie, c'est le cerveau, dont on va parler la prochaine fois, qui est le plus gros consommateur d'énergie pour sa croissance. Une fois que le cerveau a atteint sa taille adulte, ce qui arrive autour de 5-6 ans, il est pas, sa maturation va continuer, mais sa taille est à peu près atteinte, sa taille adulte, eh bien, il y a d'autres parties de l'organisme qui vont se développer de façon séquentielle. La dentition, c'est aussi quelque chose qui coûte beaucoup d'énergie à développer. Donc, on développe une dentition déciduale, puis une dentition permanente. Et puis, en fait, chez les enfants, il y a une espèce de stase, si je peux dire, où ils grandissent de façon assez lente, entre, disons, 4-5 ans et puis, justement, l'adolescence, une dizaine d'années, 11 ans. Et puis, quand ils vont s'approcher de la puberté, là, leur croissance va s'accélérer énormément. Donc on a une accélération de la croissance somatique, et puis ils vont rentrer presque tout de suite après dans la vie reproductive, ou en tout cas la possibilité de vie reproductive. Alors on s'est beaucoup interrogé sur cette histoire d'accélération de la croissance au moment de l'adolescence. Alors il y a deux explications. Une explication, c'est effectivement cette croissance séquentielle, c'est-à-dire cet investissement dans la croissance de parties différentes de l'organisme. Il y a probablement autre chose, surtout chez les garçons. Vous vous souvenez que c'est surtout chez les garçons qu'on voit ce pic d'accélération et qui est lié au fait que, dans le fond, alors c'est vrai chez les hommes, on va dire primitifs, nos chasseurs-cueilleurs ou les ancêtres de nos chasseurs-cueilleurs. C'est vrai aussi dans d'autres espèces de primates, c'est que il y a une compétition entre les mâles qui est une compétition assez forte pour l'accès aux femelles. Et cette compétition, ça peut être une compétition violente. D'accord ? Et donc, dans le fond, pour un individu qui s'approche, pour un individu mâle surtout, qui s'approche de l'âge de la maturité sexuelle, eh bien, dans le fond, c'est un peu risqué de rester entre le format enfant et le format adulte trop longtemps. Et donc, quand on s'approche de la maturité sexuelle, là, j'allais dire pour des raisons quasiment de survie, il vaut mieux acquérir le format adulte le plus rapidement possible. Et donc, il y a une espèce de croissance retardée, de croissance somatique, avant la puberté. Dès qu'on rentre dans la puberté, il y a une croissance accélérée pour atteindre le format adulte le plus rapidement possible. En gros, enfin, pour dire les choses un peu brutalement, c'est pour ne pas se faire casser la figure parce qu'on tourne autour des filles. Hein, d'accord ? Et donc, il faut... voilà. Alors, quand on compare l'histoire de vie de nos chimpanzés et de nos hommes, donc on voit effectivement qu'il y a une durée de la vie qui est plus grande chez les hommes, qu'il y a une entrée dans la vie reproductive qui est beaucoup plus précoce chez les chimpanzés que chez les hommes. Mais alors, il y a quelque chose qui est assez intéressant et curieux, c'est que en fait, la ménopause est à peu près au même âge chez les chimpanzés et chez les hommes, enfin chez les femmes. Et ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire que, dans le fond, la vie, la durée de la vie reproductive chez les femmes, chez les hommes femelles, eh bien, elle est relativement courte par rapport à ce qu'on trouve chez les autres primates. Et ça, c'est quelque chose qui est un espèce de paradoxe sur lequel on a beaucoup spéculé. Et vous allez voir qu'il y a des explications adaptatives à ça. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, encore une fois, de remarquer, j'insiste sur ce point, c'est que ce raccourcissement relatif de la période féconde, c'est un raccourcissement, si je peux dire, par l'avant, c'est-à-dire par l'âge de l'entrée dans la reproduction. Ce n'est pas un raccourcissement par une entrée plus précoce dans la ménopause. Hein. Et un des avantages de cela, c'est que, dans le fond, on va avoir des gens qui vont, enfin des femmes qui vont rentrer dans la reproduction alors qu'elles sont, j'allais dire, qu'elles ont bénéficié d'un long développement, d'un soutien de leur environnement social et familial qui est très, très prolongé, d'une éducation, hein, et qui sont, je dirais, plus susceptibles de donner vie à des enfants qui vont survivre que cette pauvre petite chimpanzée qui a 9-10 ans et qui va pour la première fois se reproduire. Et ce qui se passe chez les hommes, c'est que, enfin encore une fois chez les femmes plutôt, c'est que quand on compare donc la fécondité, c'est-à-dire le nombre, en gros le nombre de petits par année, hein, et qu'on compare ce qui se passe chez nos femelles chimpanzées et nos femmes, eh bien, c'est que bien qu'on ait une période de reproduction à l'échelle de la vie qui soit plus courte chez les femmes, finalement, la fécondité, elle est plus élevée. Et donc, on a une courbe qui s'étale sur une durée moins longue, avec un début qui est un début beaucoup plus tardif que chez les chimpanzés, mais ensuite, si je peux dire, on se rattrape parce qu'on a une fécondité beaucoup plus élevée que les chimpanzés. C'est-à-dire que par année, en moyenne, ces femmes qui vivent dans des populations naturelles, on va dire, eh bien, elles vont avoir plus de petits au cours de leur vie que nos femelles chimpanzés. Alors, comment est-ce que c'est possible ? Eh bien, et alors, vous remarquerez autre chose, c'est que, vous voyez que chez les femmes, il y a vraiment un pic de la fécondité au début de l'âge adulte. Et donc, ensuite, avec une décroissance. Alors que chez les chimpanzés, on a quelque chose qui est plus une espèce de plateau entre l'entrée dans l'âge adulte et puis la ménopause. On pense que, dans le fond, les hommes ont été soumis à des pressions de sélection qui ont favorisé la reproduction concentrée sur quelques années au début de l'âge adulte. Et pourquoi on a cette concentration de la reproduction chez les femmes au début de l'âge adulte? Eh bien, parce que c'est là qu'elles ont le plus de chances de donner, d'une part, naissance à des enfants qui sont viables, qui présentent peu de risques, et pour elles-mêmes, c'est aussi la période de la vie qui est la période où elles courent le moins de risques avec l'enfantement, alors que, vous voyez qu'à la fin, et ça, ça a été observé chez les chimpanzés en particulier, à la fin de la période reproductive, ça se complique. Alors comment est-ce que c'est possible d'avoir plus de fécondité en ayant une période reproductrice plus courte? Eh bien, les hommes ont, par rapport aux chimpanzés, une grande différence qui est l'âge du sevrage. Et l'âge du sevrage chez les grands singes est beaucoup plus tardif que chez les hommes. On a, chez les chimpanzés, des âges... Alors ça, sont des diagrammes qui ont été établis à partir de courbes isotopiques, hein, où on mesure, en gros, quel genre d'aliments les petits chimpanzés absorbent, combien ils absorbent, en particulier de lait maternel par rapport au reste. Et vous voyez que ces courbes... Alors, le sevrage, c'est pas quelque chose d'abrupt, c'est une transition, hein, c'est une transition qui dure assez longtemps. Mais enfin, elle dure assez longtemps, mais disons que chez les chimpanzés, le sevrage complet, c'est rarement terminé avant 4 ans, voire un petit peu plus. Et ce chiffre peut être beaucoup plus élevé chez d'autres grands singes. Par exemple, chez les orangs-outans, on a des sevrages qui interviennent à 6 ans, voire plus tard. Et la grande différence avec les hommes, c'est que les hommes, eux, ont en moyenne, dans des sociétés traditionnelles pré-industrielles, un sevrage qui commence autour de de 6 mois, quelque chose comme ça, mais qui va se terminer beaucoup plus tôt, et avec souvent un sevrage qui est fini autour de 2 ans et demi, c'est terminé. Et donc, à ce moment-là, ces femmes qui ont sevré leurs enfants, leur bébé, eh bien, peuvent se reproduire à nouveau et avoir un autre enfant. Et ça, les chimpanzés, eh bien, peuvent pas le faire. Et donc, l'intervalle entre les naissances est beaucoup plus court chez les hommes, dans ces populations pré-industrielles, qu'il n'est chez les autres grands singes. Alors, ça a des implications de toutes sortes dont on aura l'occasion de reparler, mais une des implications, c'est que les enfants humains grandissent dans des fratries assez... peuvent grandir dans des fratries assez importantes. Alors que notre femelle chimpanzé, elle a seulement un petit à la fois, et ce petit, elle va s'en occuper jusqu'à ce qu'il soit complètement indépendant, capable de se nourrir par lui-même, et personne d'autre ne va s'en occuper. D'accord ? Alors que les femmes ont des enfants d'âges différents qui cohabitent dans la même fratrie, et surtout, elles sont capables, si je peux dire, de convaincre les autres adultes de participer à l'entretien et à la nourriture de ces enfants. Et ça, c'est, si je peux dire, le coup de génie adaptatif des hommes que les autres grands singes n'ont pas réalisé, c'est-à-dire que nous sommes ce que l'on appelle des reproducteurs coopératifs, c'est-à-dire que à l'échelle d'une vie, quand on regarde les transferts d'énergie entre les différents membres d'une famille, eh bien, on voit que, dans le fond, cet enfant qui est en cours de croissance, il va être nourri par sa mère, mais assez vite, elle va partager ce fardeau avec la grand-mère, le grand-père, le père, et d'ailleurs n'importe qui est capable de fournir de l'énergie pour aider à la croissance, en particulier à la croissance du cerveau, qui est très coûteuse, de cet enfant. Il y a des études très intéressantes qui ont été faites qui montrent, toujours pareil chez nos chasseurs-cueilleurs, que, par exemple, l'intervalle des naissances à l'intérieur d'une population varie en fonction de l'apport énergétique par les pères. C'est-à-dire que plus les pères sont capables d'apporter de l'énergie supplémentaire à ce que la mère donne à son enfant, en particulier à travers l'allaitement, et puis ensuite au cours du sevrage, plus cela va permettre de raccourcir l'intervalle entre les naissances dans cette population, et donc une fécondité plus élevée. Et donc, vous voyez que ces transferts d'énergie entre adultes et ce comportement de reproducteur coopératif, c'est quelque chose de très important pour les hommes. Alors, parlons maintenant de cette relation entre la fécondité et la taille. Alors, je vous ai des diagrammes comme ça, il y en a énormément dans toutes les études sur l'histoire, les traits de vie et les théories d'histoire de vie. On a une relation, vous vous souvenez qu'on a une relation entre la longévité et la taille des individus. Eh bien, on a aussi une relation entre la taille des individus et leur fertilité. Alors là, c'est une relation inverse. Vous vous souvenez de mes éléphants ? Plus on a affaire à des êtres qui sont des êtres de grande taille, plus il est coûteux de produire des petits, qui ne sont pas si petits que ça, et donc plus la fécondité va baisser. C'est quelque chose qu'on observe au sein des mammifères en général et au sein des primates en général. Vous voyez ici toujours des échelles logarithmiques. À gauche, des petits singes. Des hommes, vous voyez que le taux de fécondité de ces hommes est quasiment 100 fois plus bas que celui de nos petits singes, enfin pas tout à fait 100 fois, mais est considérablement réduit par rapport à celui de nos grands singes, de nos petits singes. Alors ce qui est absolument remarquable dans ces stratégies d'histoire de vie, c'est que non seulement on voit des adaptations différentes, des stratégies différentes d'une espèce à l'autre, mais on voit même au sein d'une espèce des stratégies différentes d'une population à l'autre en fonction de leur environnement. Et je vous ai choisi ici un exemple qui est une étude qui a été menée il y a quelques années sur la relation entre la taille des enfants dans une population à l'âge de 5 ans. C'est une mesure de la taille des enfants. Hein. Bon, on aurait pu prendre la taille à la naissance ou autre chose, c'est un peu pareil. Et puis la fécondité. Et vous voyez que tous ces points qui représentent des populations différentes de chasseurs-cueilleurs, eh bien, s'organisent suivant une distribution où on voit nettement ce qui joue à l'échelle transpécifique au sein des mammifères ou transpécifique à l'échelle des primates entre des populations humaines. Et donc, on a ici, à gauche, des pygmées qui vivent dans la forêt équatoriale, qui sont des populations qui ont des enfants qui sont de toute petite taille, mais qui ont un taux de fécondité beaucoup plus élevé que ces Yanomano qui vivent dans la forêt équatoriale sud-américaine, qui ont des enfants beaucoup plus grands, mais qui ont beaucoup moins d'enfants. Et donc, c'est pas juste du hasard, c'est lié à des adaptations de ces populations à des conditions de milieu différentes, et en particulier, souvenez de mon histoire de voitures de luxe et de grandes maisons, de la capacité d'extraire de l'énergie de différents environnements qui varient en fonction des milieux, des paysages. Alors, il y a un autre moyen, un autre aspect qui est intéressant de regarder en termes de fertilité. C'est un petit peu différent de la taille, c'est le métabolisme basal dont je vous ai parlé au début. Alors évidemment, ce métabolisme, il est en grande partie lié à la taille, on l'a déjà vu. Et vous voyez que dans ce diagramme, les hommes sont là, les femmes sont là, comparés à des grands singes. Alors ces mesures sont pondérées en fonction de la taille. Évidemment, un gorille, ça dépense beaucoup d'énergie. Mais si on divise l'énergie d'un gorille par le nombre de kilos de gorille et qu'on ramène tout ça à une taille moyenne de mâle de 55 kilos et de femelle de 45 kilos, vous voyez que les hommes ont des traits très particuliers. C'est-à-dire qu'au sein des primates de grande taille, ce sont eux qui consomment le plus d'énergie. Alors, par leur métabolisme basal, mais aussi à cause de leur activité quotidienne, de leur activité physique. Enfin, la partie gauche du diagramme est un peu triste. Jaune, c'est du gras. Hein. C'est-à-dire que non seulement on consomme beaucoup d'énergie, mais on stocke beaucoup aussi sous forme de graisse. Cette énergie, bon, vous allez voir que la fécondité varie avec ce métabolisme basal. Alors, ces chiffres qui peuvent vous paraître un petit peu théoriques, on peut les ramener à quelque chose qui va peut-être être plus parlant pour vous. Un homme, c'est une ampoule de 100 watts, à peu près. C'est-à-dire, la consommation pour le métabolisme basal et puis une activité, j'allais dire, normale du corps, ça correspond à la consommation énergétique de 100 watts. Si vous ne faites rien de particulier, si vous montez un escalier, 200 watts, d'accord ? Donc, on peut voir les populations humaines comme des populations d'ampoules de 100 watts. Et on peut regarder quelle est la fécondité de différentes espèces animales en fonction de cette fameuse consommation d'énergie. Et on voit une chose qu'on a déjà vue avec la taille, qu'on a déjà vue avec d'autres facteurs, c'est-à-dire que la fécondité diminue avec la consommation d'énergie. Plus on a affaire à des organismes qui consomment de l'énergie, moins ils vont avoir de petits. Toujours pareil, échelle logarithmique. Donc on a les mammifères ici en bleu. Vous voyez que les primates sont encore moins féconds que les autres mammifères, hein, à consommation d'énergie égale. Pourquoi ? Parce que ce sont des mammifères à grand cerveau. On va revenir là-dessus. Et le cerveau, ça coûte cher. Nos chasseurs-cueilleurs, ils sont là. Donc ils sont au bout de la distribution des primates. Ils sont parmi les primates qui sont, disons, une fécondité assez faible, mais vous voyez qu'ils sont quand même au-dessus de nos chimpanzés, de nos gorilles, de nos orangs-outans, à cause de notre histoire d'intervalle des naissances qui nous permet, si je peux dire, de rattraper notre handicap de ce côté-là. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude de Moses et Brown, c'est qu'ils ont eu l'idée de prendre en compte non seulement le métabolisme basal ou l'énergie dépensée pour l'activité physique, mais aussi l'énergie dépensée, extraite de l'environnement et dépensée pour autre chose. Par exemple, faire cuire de la nourriture. Par exemple, avoir une mobylette ou une voiture ou prendre l'avion. D'accord ? Et on peut mesurer tout ça et ajouter ça au métabolisme basal et à l'activité physique. Alors là, inutile de dire qu'on est très très loin des 100 watts. Hein ? C'est-à-dire qu'on a des populations humaines où la consommation par tête, par individu, dépasse les 10 000 watts. Au Canada, aux États-Unis, on est plutôt autour de 12 000, 13 000, 14 000 watts de consommation par tête. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que, dans le fond, quand on regarde la fécondité dans ces sociétés qui consomment autant d'énergie par individu, eh bien, on a des sociétés qui se rangent sur la même droite de régression que celle que l'on a déjà établie pour les primates. Et concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre Américaine des classes moyennes qui consomme 12 000 watts, eh bien, elle a le taux de fécondité d'un primate qui ferait à peu près 30 tonnes. C'est ce que prévoit la courbe et c'est ce qu'on observe dans la réalité. C'est-à-dire un taux de fécondité d'un peu moins de 2 enfants par femme, c'est-à-dire à peu près un petit en moyenne tous les 15 ans. Alors, elles les ont sur une période plus rapprochée, mais à l'échelle de la vie, ça donne ça. Et c'est exactement ce que donne la prédiction de cette étude. Alors, bon, inutile de vous dire que ça a un certain nombre d'implications. Alors, il y a une autre façon de voir les choses. Je vous disais tout à l'heure que la reproduction, ça coûtait de l'argent. Il y a des gens qui ont étudié ça d'un autre point de vue, qui est le coût d'un enfant, combien coûte un enfant, hein. Alors on a parlé jusqu'à présent de coûts métaboliques, mais on peut aussi compter en dollars, et donc les derniers chiffres, enfin ceux que j'ai trouvés pour 2015, c'est que l'enfant de cette Américaine des classes moyennes pour qu'ils grandissent entre la naissance et 18 ans, ça coûte 233 610 dollars en moyenne. Et compte tenu des revenus des classes moyennes, il faut, on peut difficilement avoir plus de 2 ou 3 enfants par famille, puisque après, c'est un fardeau financier qui n'est pas possible à porter. Alors, parlons maintenant, dans ces traits de vie, de la mortalité. Vous vous souvenez que c'était un aspect qui était important. Alors, la mortalité n'est pas inéluctable. C'est la bonne nouvelle. Cette ligne verte ici, c'est l'hydre d'eau douce. Donc l'hydre d'eau douce a une mortalité qui est constante. C'est-à-dire, à partir du moment où il naît, le taux de mortalité ne change jamais. On pense que l'hydre d'eau douce vit peut-être éternellement. Apparemment, il a des réserves de cellules souches qui sont infinies. Et donc, il n'y a pas de changement du taux de mortalité. Nos tortues, vous vous souvenez qu'elles avaient une très forte mortalité à la naissance, et puis après, ça se calme. Après, quand elles arrivent à un certain âge, si rien ne leur arrive de malheureux, elles peuvent vivre très très longtemps. Alors, les hommes, eux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, eux, ils ont une mortalité très faible au début, mais les choses vont se gâter à partir d'un certain âge, et donc vous voyez que la mortalité, après 70 ans, 80 ans, quand même, augmente énormément. Alors, ces données sont des données qui sont importantes pour ces stratégies d'histoire de vie. Ce qui est important à propos de la mortalité, c'est quand même de, quand on parle des hommes, c'est de se rendre compte que cette très longue vie, cette espérance de vie, c'est quelque chose qui est relativement récent dans l'évolution humaine. Disons que le fait d'avoir des centenaires, une grande quantité de gens âgés dans la société, c'est un phénomène historique. En fait, vous avez ici la courbe qui montre l'évolution de l'espérance de vie entre 1840 et aujourd'hui. Vous voyez que 1840, on était à 45 ans d'espérance de vie en Europe. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que les estimations qu'on a pour les chasseurs-cueilleurs qui vivent dans la nature, ce dont on a beaucoup parlé déjà, eh bien, c'est une espérance de vie qui n'est pas très différente de l'espérance de vie qu'on a en Europe au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle. Donc, il ne s'est pas passé grand-chose de ce point de vue-là en termes d'espérance de vie pour les hommes. Et ce qu'on a donc qui s'est passé au cours du XIXe siècle essentiellement, c'est d'abord une réduction très très forte de la mortalité infantile. On l'a quasiment éliminée. Donc c'est ce qui a fait augmenter l'espérance de vie à la naissance. Et puis plus récemment, c'est la réduction de la mortalité des gens âgés. Donc alors il y a un débat entre les démographes. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a aucune raison que cette courbe ne s'arrête. D'ailleurs, vous voyez ici des prédictions des Nations Unies qui ont été faites en 1980, en 1990, en 2000. Donc, tous les 10 ans, on est obligé de faire des prédictions sur 10 ans d'espérance de vie supplémentaire, en gros. Et puis, il y a des gens qui pensent que non, il y a un jour, on va atteindre un plateau et que cette espérance de vie ne va pas augmenter. Alors, cette grande espérance de vie des hommes, elle pose un certain nombre de problèmes du point de vue de l'évolution, du point de vue de l'adaptation. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre très très longtemps ? Alors, on a vu que la longévité, ça fonctionnait avec tout un tas d'autres aspects, d'autres traits de vie, la masse corporelle, la fécondité, la taille du cerveau, des tas de choses comme ça. Mais quand même, il y a un paradoxe, et le paradoxe, c'est chez l'homme, et en particulier chez la femme, il y a une très longue survie après la période reproductive. Et du point de vue darwinien, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Pourquoi ? Parce que les gènes qui sont... Enfin, le génome qui est soumis à la sélection, il est soumis à la sélection pendant la période où on se reproduit. C'est ce qui va faire qu'on va avoir un succès reproductif plus ou moins grand. Mais une fois qu'on ne se reproduit plus, c'est assez difficile d'expliquer comment on a pu sélectionner une partie du génome qui, dans le fond, rallonge la vie après la période sélective. Et ça, c'est un sujet qui fait débat depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, vous voyez, chez nos chimpanzés, on a une survie qui décline régulièrement avec, en fait, une mortalité, enfin, disons, une espérance de vie qui correspond, en gros, à l'âge de la ménopause. C'est-à-dire que dans la nature, il y a très peu de femelles chimpanzés qui sont dans une période post-reproductive et qui sont toujours là. Hein. Alors, chez les hommes, pas du tout. Alors, ici, ce sont des chasseurs-cueilleurs. Juste par curiosité, je vous montre les Japonais, parce que là, c'est vraiment extravagant. Enfin, les Japonaises. Hein. Donc, vous voyez, les Japonaises, donc la courbe bleue, paf, elles se reproduisent quand elles sont de jeunes adultes, qu'elles ont 25-30 ans, donc elles ont leurs enfants. Et puis après, elles vont vivre, voilà, c'est 102, hein, ce qu'on lit là en bas. Hein. Donc elles vont vivre très 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 longtemps avec une courbe de survie qui est extraordinaire et une mortalité, bon ma foi, qui doit augmenter à un moment quand même vers la fin. Mais vous voyez qu'il y a quand même une grande partie de la vie qui s'allonge, pendant laquelle ces Japonaises ne se reproduisent pas. Et ça, on a du mal à expliquer ça. Alors, il y a des tas de gens qui se sont intéressés à cette question-là. Une des hypothèses qui a eu un énorme succès au cours des 20 dernières années, c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse de la grand-mère. Grandmother hypothesis. Alors, c'est quoi cette histoire de grand-mère ? Eh bien, c'est l'idée que, en fait, les grand-mères, évidemment, elles ne se reproduisent pas, mais elles accroissent le succès reproductif de leurs filles parce qu'elles s'occupent des enfants de leurs filles. D'accord ? Et c'est une chercheuse américaine qui s'appelle Kristen Hawkes, qui est dans l'Utah, qui a étudié beaucoup les Hadza, qui sont un groupe qui vit en Afrique de l'Est et qui sont des chasseurs-cueilleurs. Et chez ces Hadza, les hommes chassent, mais les femmes travaillent drôlement. Et elles travaillent à extraire des tubercules du sol pour nourrir la famille. Et les grand-mères creusent. D'accord ? Et en creusant, en ramassant des tubercules, dans le fond, elles aident à la survie, au succès reproductif de leurs petits-enfants. Alors, enfin, je dois dire, d'abord, d'une façon générale, cette histoire de survie à la ménopause, c'est quelque chose qui est très particulier aux hommes. En fait, dans la nature, il y a assez peu d'espèces où on trouve ça. Alors, je vous ai trouvé quand même un exemple, qui est un exemple très connu, qui est celui des baleines à dents, des orques, des baleines tueuses. Donc, chez les baleines tueuses, on a une vie en société, une vie en groupe. D'ailleurs, soit en passant, ce sont eux aussi des mammifères avec un grand cerveau et une stratégie K de trait de vie. Et ce qu'on a observé, c'est que c'est essentiellement des femelles ménopausées qui sont les chefs, en gros, de ces groupes et qui les dirigent et qui les guident dans leur pérégrination dans l'océan. Les grand-mères Hadza ne sont pas les chefs, hein, mais elles survivent très très longtemps. Alors cette hypothèse des grand-mères est constamment discutée par tout un tas de publications. Il y a même dans mon laboratoire des gens qui ont écrit des papiers là-dessus. Je crois même que j'en ai écrit un. Et en fait, le problème qu'on a, c'est le suivant. C'est que toutes ces études sur les grand-mères sont des études qui sont fondées sur des corrélations. Et en science, des corrélations, ce ne sont pas des explications. C'est-à-dire qu'on montre qu'il y a une corrélation entre la survie des jeunes enfants et puis le fait qu'ils aient des grands-mères, pas des grands-mères. Mais dans le fond, on a du mal à trouver le mécanisme. Alors, ce mécanisme un peu naïf que je vous décrivais, hein, c'est-à-dire de l'histoire des tubercules, de prendre soin des enfants, etc., on aimerait pouvoir le quantifier. Et en fait, on n'y arrive pas. Il y a des gens qui font en biologie de la modélisation, c'est-à-dire qu'ils construisent des modèles mathématiques, et ces modèles mathématiques nous permettent de se rendre compte de ce qui est possible, ou surtout de ce qui n'est pas possible en fonction de différents paramètres. Le problème avec l'hypothèse des grands-mères, c'est que quand on construit un modèle mathématique, on se rend compte que, oui, c'est avantageux d'avoir une grand-mère qui nourrit les petits-enfants. Mais ça serait encore plus avantageux si la grand-mère pouvait se reproduire. Et donc, dans le fond, ça n'explique pas pourquoi elle est ménopausée. Hein ? Et on soupçonne... Non, mais c'est une affaire très sérieuse. On soupçonne qu'en fait... Et ça arrive souvent dans les mécanismes de l'évolution, et je crois qu'on va s'arrêter là-dessus pour ce soir. Souvent dans les mécanismes de sélection naturelle, eh bien, il y a des produits secondaires, hein, byproduct en anglais. C'est-à-dire que ce qu'on soupçonne, c'est que peut-être que cette histoire de femmes qui survivent très très longtemps à la ménopause, c'est le produit secondaire de la sélection d'autres choses. Alors, les scientifiques ont beaucoup d'imagination et ils ont trouvé des tas d'explications possibles de mécanismes qui pourraient expliquer ça. Alors, il y en a qui sont assez amusants. Par exemple, il y en a un suivant lequel c'est en fait la survie des hommes qui est sous une pression de sélection positive et que la survie des femmes après la ménopause, c'est un produit secondaire. Parce qu'on ne peut pas sélectionner des gènes qui fonctionneraient juste chez les hommes et pas chez les femmes. Alors, le problème, c'est que les femmes ont tendance à vivre quand même plus longtemps que les hommes. Mais enfin, bref. Donc, il y a cette explication-là. Il y a même une explication que je trouve assez chouette, hein, qui est l'idée que, en fait, les hommes qui ont le plus grand succès reproductif, ce sont ceux qui se reproduisent le plus longtemps possible, qui préfèrent d'ailleurs les jeunes femmes aux femmes âgées, et que c'est eux qui, dans le fond, conduisent le mécanisme de sélection naturelle, et que du coup, on a sélectionné des gènes qui favorisent la longévité dans l'espèce en général, et donc secondairement chez les femmes, même après la ménopause. Donc je vous laisse pour ce soir sur ces réflexions.